Ces réflexions avaient donc conduit Rabourdin à une refonte du personnel. Employer peu de monde, tripler ou doubler les traitements et supprimer les pensions, prendre les employés jeunes comme faisaient Napoléon, Louis XIV, Richelieu et Ximénez, mais les garder longtemps en leur réservant les hauts emplois et de grands honneurs, étaient les points capitaux d'une réforme aussi utile à l'État qu'à l'employé. Il est difficile de raconter en détail, chapitre par chapitre, un plan qui embrassait le budget et qui descendait dans les infiniment petits de l'administration pour les synthétiser. Mais peut-être une indication des principales réformes suffira-t-elle à ceux qui connaissent comme à ceux qui ignorent la constitution administrative. Quoique la position d'un historien soit dangereuse en racontant un plan qui ressemble à de la politique faite au coin du feu, encore est-il nécessaire de le crayonner afin d'expliquer l'homme par l'œuvre. Supprimez le récit de ses travaux, vous ne voudrez plus croire le narrateur sur parole s'il se contentait d'affirmer le talent ou l'audace d'un chef de bureau. Rabourdin divisait la haute administration en trois ministères. Il avait pensé que si jadis il se trouvait des têtes assez fortes pour embrasser l'ensemble des affaires intérieures et extérieures, la France d'aujourd'hui ne manquerait jamais de Mazarin, de Suger, de Sully, de Choiseul, de Colbert pour diriger des ministères plus vastes que les ministères actuels. D'ailleurs, constitutionnellement parlant, trois ministres s'accordent plus facilement que sept. Puis, il est moins difficile aussi de se tromper quant au talent. Enfin, peut-être la royauté éviterait-elle ainsi ces perpétuelles oscillations ministérielles qui ne permettent de suivre aucun plan de politique extérieure ni d'accomplir aucune amélioration intérieure. En Autriche, où des nations diverses réunies offrent des intérêts différents à concilier et à conduire sous une même couronne, deux hommes d'État supportaient en ce moment le poids des affaires publiques sans en être accablés. La France était-elle plus pauvre que l'Allemagne en capacité politique? D'abord, n'était-il pas naturel de réunir le ministère de la Marine au ministère de la Guerre? Pour Rabourdin, la Marine paraissait un des comptes courants du ministère de la Guerre, comme l'artillerie, la cavalerie, l'infanterie et l'intendance. N'était-ce pas un contresens de donner aux amiraux et aux maréchaux une administration séparée quand ils marchaient vers un but commun? La défense du pays, l'attaque de l'ennemi, la protection des possessions nationales. Le ministère de l'Intérieur devait réunir le commerce, la police et les finances, sous peine de mentir à son nom. Au ministère des Affaires étrangères appartenaient la justice, la maison du roi et tout ce qui, dans le ministère de l'Intérieur, concerne les arts, les lettres et les grâces. Toute protection devait découler immédiatement du souverain et ce ministère impliquait la présidence du Conseil. Chacun de ces trois ministères ne comportait pas plus de 200 employés à son administration centrale où Rabourdin les logeait tous comme jadis sous la monarchie. En prenant pour moyenne une somme de 12 000 francs par tête, il ne comptait que 7 millions pour des chapitres qui ont coûté plus de 20 dans le budget actuel. Car en réduisant ainsi les ministères à trois têtes, il supprimait des administrations entières devenues inutiles et les énormes frais de leurs établissements dans Paris. Il prouvait qu'un arrondissement devait être administré par 10 hommes, une préfecture par 12 au plus, ce qui ne supposait que 5 000 employés pour toute la France, justice et armée à part, nombre que dépassait alors le chiffre seul des employés au ministère. Mais dans son plan, les greffiers des tribunaux étaient chargés du régime hypothécaire, mais le ministère public était chargé de l'enregistrement et des domaines, car il avait réuni dans un même centre les parties similaires. Ainsi, l'hypothèque, la succession, l'enregistrement ne sortaient pas de leur cercle d'action et ne nécessitaient que 3 surnuméraires par tribunal et 3 par cour royale. L'application constante de ce principe avait conduit Rabourdin à la réforme des finances. Il avait confondu toutes les perceptions d'impôts en une seule, en taxant la consommation en masse au lieu de taxer la propriété. Selon lui, la consommation était l'unique matière imposable en temps de paix. La contribution foncière devait être réservée pour les cas de guerre. Alors seulement, l'État pouvait demander des sacrifices au sol, car alors il s'agissait de le défendre. Mais en temps de paix, c'était une lourde faute politique que de l'inquiéter au-delà d'une certaine limite. On ne le trouvait plus dans les grandes crises. Ainsi, l'emprunt pendant la paix, parce qu'il se faisait au pair et non à 50% de pertes comme dans les temps mauvais, puis pendant la guerre, la contribution foncière. L'invasion de 1814 et 1815, disait Rabourdin à ses amis, a fondé en France et démontré une institution que ni l'eau ni Napoléon n'avaient pu établir, le crédit. Malheureusement, Xavier considérait les vrais principes de cette admirable machine comme encore peu compris. Rabourdin imposait la consommation par le mode des contributions directes en supprimant tout l'attirail des contributions indirectes. La recette de l'impôt se résolvait par un rôle unique composé de divers articles. Il abattait ainsi les gênantes barrières qui barricadent les villes auxquelles il procurait de plus gros revenus en simplifiant leurs modes actuels de perception énormément coûteux. Diminuer la lourdeur de l'impôt n'est pas en matière de finances diminuer l'impôt, c'est le mieux répartir. L'alléger, c'est augmenter la masse des transactions en leur laissant plus de jeu. L'individu paye moins et l'État reçoit davantage. Cette réforme, qui peut sembler immense, reposait sur un mécanisme fort simple. Rabourdin avait pris l'impôt personnel et mobilier comme la représentation la plus fidèle de la consommation générale. Les fortunes individuelles s'expriment admirablement en France par le loyer, par le nombre des domestiques, par les chevaux et les voitures de luxe, qui se prêtent à la fiscalité car les habitations et ce qu'elles contiennent varient peu et disparaissent difficilement. Après avoir indiqué les moyens de confectionner un rôle de contribution mobilière plus sincère que ne l'était le rôle actuel, il répartissait les sommes que produisaient au trésor les impôts dits indirects en un tant pour cent de chaque cote individuelle. En effet, l'impôt est un prélèvement d'argent fait sur les choses ou sur les personnes sous des déguisements plus ou moins spécieux. Mais le temps de ce déguisement, bon quand il fallait extorquer l'argent, était passé dans une époque où la classe sur laquelle pèsent les impôts sait pourquoi l'État les prend et par quel mécanisme il les lui rend. En effet, le budget n'est pas un coffre-fort, mais un arrosoir. Plus il prend et répand l'eau, plus un pays prospère. Ainsi supposait 6 millions de cotes aisées. Il en avait prouvé l'existence en y comprenant les cotes riches. Ne valait-il pas mieux leur demander directement un droit de vin qui ne serait pas plus ridicule que l'impôt des portes et fenêtres et produirait 100 millions plutôt que de les tourmenter en imposant la chose même? Par cette régularisation de l'impôt, chaque particulier paierait moins en réalité, l'État recevrait davantage et les consommateurs jouiraient d'une immense réduction dans le prix des choses que l'État ne soumettrait plus à des tortures infinies. Il conservait un droit de culture sur les vignobles afin de protéger cette industrie contre la trop grande abondance de ses produits, puis pour atteindre les consommations des côtes pauvres, les patentes des débitants étaient taxées d'après la population des lieux qu'ils habitaient. Ainsi, sous trois formes, droit de vin, droit de culture et patente, le trésor levait une recette énorme, sans frais ni vexation, là où il y avait un impôt vexatoire partagé entre ses employés et lui. L'impôt pesait ainsi sur le riche au lieu de tourmenter le pauvre. Un autre exemple. Supposez un franc ou deux par cote de droit de sel, vous obtenez 10 ou 12 millions, la gabelle moderne disparaît, la population pauvre respire, l'agriculture est soulagée, l'État reçoit tout autant et nulle cote ne se plaint car toute cote est propriétaire et peut reconnaître immédiatement les bénéfices d'un impôt ainsi réparti en voyant au fond des campagnes la vie s'améliorant. Enfin, d'année en année, l'État verrait le nombre des cotes aisées croissant. En supprimant l'administration des contributions indirectes, machine extrêmement coûteuse et qui est un État dans l'État, le Trésor et les particuliers y gagnaient donc énormément à ne considérer que l'économie des frais de perception. Le tabac et la poudre s'affermaient en régie sous une surveillance. Le système sur ces deux régies, développé par d'autres que Rabourdin lors du renouvellement de la loi sur les tabacs, était si convaincant que cette loi n'eût point passé dans une chambre à qui l'on n'aurait pas mis le marché à la main, comme le fit alors le ministère. Ce fut alors moins une question de finance qu'une question de gouvernement. L'État ne possédait plus rien en propre, ni forêt, ni mine, ni exploitation. Aux yeux de Rabourdin, l'État possesseur de domaine constitue un contresens administratif car l'État ne sait pas faire valoir et se prive de contributions. Il perd deux produits à la fois. Quant aux fabriques du gouvernement, c'était le même non-sens reporté dans la sphère de l'industrie. L'État obtient des produits plus coûteux que ceux du commerce, plus lentement confectionnés, et manque à percevoir ses droits sur les mouvements de l'industrie à laquelle il retranche des alimentations. Était-ce administrer un pays que d'y fabriquer au lieu d'y faire fabriquer, d'y posséder au lieu de créer le plus de possessions diverses? L'État n'exigeait plus un seul cautionnement en argent. Rabourdin n'admettait que des cautionnements hypothécaires. Voici pourquoi. Ou l'État gardait le cautionnement en nature et s'était gêné le mouvement de l'argent, ou il l'employait à un taux supérieur à l'intérêt qu'il en donnait et c'était un vol ignoble. Ou il y perdait, et c'était une sottise. Enfin, s'il disposait un jour de la masse des cautionnements, il préparait, dans certains cas, une banqueroute horrible. L'impôt territorial disparaissait donc en partie, Rabourdin en conservait une faible portion, ne fût-ce que comme point de départ en cas de guerre, mais évidemment, les productions du sol devenaient libres, et l'industrie, en trouvant les matières premières à bas prix, pouvait lutter avec l'étranger sans le secours trompeur des douanes. Les riches administraient gratuitement les départements en ayant pour récompense la pairie sous certaines conditions. Les magistrats, les corps savants, les officiers inférieurs voyaient leurs services honorablement récompensés. Il n'y avait pas d'employé qui n'obtînt une immense considération méritée par l'étendue de ses travaux et l'importance de ses appointements. Chacun d'eux pensait lui-même à son avenir et la France n'avait plus sur le corps le cancer des pensions. En résultat, Rabourdin trouvait 700 millions de dépenses seulement et 1200 millions de recettes. Il était clair qu'un remboursement de 500 millions annuels jouait alors avec un peu plus de force que le maigre amortissement dont le vice était démontré. Là, selon lui, l'État se faisait encore rentier, comme l'État s'entêtait d'ailleurs à posséder et à fabriquer. Enfin, pour exécuter sans secousse sa réforme et pour éviter une Saint-Barthélemy d'employés, Rabourdin demandait 20 années. Telles étaient les pensées mûries par cet homme depuis le jour où sa place fut donnée à M. de la Billardière, homme incapable. Ce plan si vaste en apparence, si simple en réalité, qui supprimait tant de gros états-majors et tant de petites places également inutiles, exigeait de continuels calculs, des statistiques exactes et des preuves évidentes. Rabourdin avait pendant longtemps étudié le budget sur sa double face, celle des voies et moyens, celle des dépenses. Aussi avait-il passé bien des nuits à l'insu de sa femme. Ce n'était rien encore que d'avoir osé concevoir ce plan et de l'avoir superposé sur le cadavre administratif. Il fallait s'adresser à un ministre capable de l'apprécier. Le succès de Rabourdin tenait donc à la tranquillité d'une politique alors toujours agitée. Il ne considéra le gouvernement comme définitivement assis qu'au moment où 300 députés eurent le courage de former une majorité compacte systématiquement ministérielle. Une administration fondée sur cette base s'était établie depuis que Rabourdin avait achevé ses travaux. À cette époque, le luxe de la paix dû aux Bourbons faisait oublier le luxe guerrier du temps où la France brillait comme un vaste camp prodigue et magnifique parce qu'il était victorieux. Après sa campagne en Espagne, le ministère paraissait devoir commencer une de ces paisibles carrières où le bien peut s'accomplir et depuis 3 mois un nouveau règne avait commencé sans éprouver aucune entrave car le libéralisme de la gauche avait salué Charles X avec autant d'enthousiasme que la droite. C'était à tromper les gens les plus clairvoyants. Le moment semblait donc propice. N'était-ce pas un gage de durée pour une administration que de proposer et de mettre à fin une réforme dont les résultats étaient si grands? Jamais donc Rabourdin ne s'était montré plus soucieux, plus préoccupé le matin, quand il allait par les rues au ministère, et le soir à 4h30, quand il revenait. De son côté, Madame Rabourdin, désolée de sa vie manquée, ennuyée de travailler en secret pour se procurer quelques jouissances de toilette, ne s'était jamais montrée plus aigrement mécontente, mais en femme attachée à son mari, elle regardait comme indigne d'une femme supérieure les honteux commerces par lesquels certaines femmes d'employés suppléaient à l'insuffisance des appointements. Cette raison lui fit refuser toute relation avec Madame Colville, alors liée avec François Keller et dont les soirées effaçaient souvent celles de la rue du Faux. Humiliée d'être mariée à un homme sans énergie, car elle prenait l'immobilité du penseur politique et la préoccupation du travailleur intrépide pour l'apathique abattement de l'employé dompté par l'ennui des bureaux, et vaincue par la plus détestable de toutes les misères, par une médiocrité qui permet de vivre, Célestine, vers cette époque, avait dans sa grande âme résolu de faire à elle seule la fortune de son mari, de l'élever à tout prix et de lui cacher les ressorts qu'elle ferait jouer. Elle porta dans ses conceptions cette indépendance d'idées qui la distinguait. Elle se complut à s'élever au-dessus des femmes en n'obéissant point à leurs petits préjugés, en ne s'embarrassant point des entraves que la société leur impose. Dans sa rage, elle se promit de battre les sots avec leurs armes et de se jouer elle-même s'il le fallait. Elle vit enfin les choses de haut. L'occasion était favorable. Monsieur de la Billardière, attaqué d'une maladie mortelle, allait succomber sous peu de jours. Si Rabourdin lui succédait, ses talents, car Célestine lui accordait des talents administratifs, seraient si bien appréciés que la place de maître des requêtes autrefois promise lui serait donnée. Elle le voyait commissaire du roi, défendant des projets de loi aux chambres. Elle l'aiderait alors. Elle deviendrait, s'il était besoin, son secrétaire. Elle passerait des nuits. Tout cela pour aller au bois de Boulogne dans une charmante calèche, pour marcher de pair avec madame Delphine de Nucingen, pour élever son salon à la hauteur de celui de madame de Colville, pour être invité aux grandes solennités ministérielles, pour conquérir des auditeurs, pour faire dire d'elle, madame Rabourdin, de quelque chose, elle ne connaissait pas encore sa terre, comme on disait madame Firmiani, madame d'Espard, madame d'Aiglemont, madame de Carigliano, enfin, pour effacer surtout l'odieux nom de Rabourdin. Ces secrets de conception engendrèrent quelques changements dans l'intérieur du ménage. Madame Rabourdin commença par marcher d'un pas ferme dans la voie de la dette. Elle reprit un domestique mâle, lui fit porter une livrée insignifiante, drap brun à liseré rouge. Elle rafraîchit quelques parties de son mobilier, tendit à nouveau son appartement, l'embellit de fleurs souvent renouvelées, l'encombra des futilités qui devenaient alors à la mode, puis elle, qui jadis avait quelques scrupules sur ses dépenses, n'hésita plus à remettre sa toilette en harmonie avec le rang auquel elle aspirait, et dont les bénéfices furent escomptés dans quelques magasins où elle fit ses provisions pour la guerre. Pour mettre à la mode ses mercredis, elle donna régulièrement à dîner le vendredi. Les convives furent tenus à faire une visite en prenant une tasse de thé le mercredi suivant. Elle choisit habilement ses convives parmi les députés influents, parmi les gens qui, de loin ou de près, pouvaient servir ses intérêts. Enfin, elle se fit un entourage fort convenable. On s'amusait beaucoup chez elle, on le disait du moins, ce qui suffit à Paris pour attirer le monde. Rabourdin était si profondément occupé de son grave et grand travail qu'il ne remarqua pas cette recrudescence de luxe au sein de son ménage. Ainsi, la femme et le mari assiégèrent la même place en opérant sur des lignes parallèles, à l'insu l'un de l'autre. Au ministère fleurissait alors comme secrétaire général certain monsieur Clément Chardin du Loupeau, un de ces personnages que le flot des événements politiques met en saillie pendant quelques années, qui l'emporte en un jour d'orage et que vous retrouvez sur la rive à je ne sais quelle distance, échoué comme la carcasse d'une embarcation, mais qui semble être encore quelque chose. Le voyageur se demande si ce débris n'a pas contenu des marchandises précieuses, servi dans de grandes circonstances, coopéré à quelque résistance, supporter le velours d'un trône ou transporter le cadavre d'une royauté. En ce moment, Clément des Loupeaux, les Loupeaux absorbaient le Chardin, atteignait à son apogée. Dans les existences les plus illustres comme dans les plus obscures, n'y a-t-il pas pour l'animal comme pour les secrétaires généraux un zénith et un nadir, une période où le pelage est magnifique, où la fortune rayonne de tout son éclat? Dans la nomenclature créée par les fabulistes, des Loupeaux appartenaient au genre des Bertrands et ne s'occupaient qu'à trouver des ratons. Les moralistes déploient ordinairement leur verve sur les abominations transcendantes. Pour eux, les crimes sont à la cour d'assises ou à la police correctionnelle, mais les finesses sociales leur échappent. L'habileté qui triomphe sous les armes du code est au-dessus ou au-dessous d'eux. Ils n'ont ni loupe ni longue-vue, il leur faut de bonnes grosses horreurs bien visibles. Toujours occupés des carnassiers, ils négligent les reptiles et, heureusement pour les poètes comiques, ils leur laissent les nuances qui colorent le Chardin des Loupeaux. Égoïste et vain, souple et fier, libertin et gourmand, avide à cause de ses dettes, discret comme une tombe d'où rien ne sort pour démentir l'inscription destinée aux passants, intrépide et sans peur quand il sollicitait, aimable et spirituel dans toute l'acceptation du mot, moqueur à propos, plein de tact, sachant vous compromettre par une caresse comme par un coup de coude, ne reculant devant aucune largeur de ruisseau et sautant avec grâce, effronté voltairien et allant à la messe à Saint-Thomas-d'Aquin quand il s'y trouvait une belle assemblée, le secrétaire général ressemblait à toutes les médiocrités qui forment le noyau du monde politique. Savant de la science des autres, il avait pris la position d'écouteur et il n'en existait point de plus attentif. Aussi, pour ne pas éveiller le soupçon, était-il flatteur jusqu'à la nausée, insinuant comme un parfum et caressant comme une femme. Il allait accomplir sa 40e année. Sa jeunesse l'avait désespéré pendant longtemps, car il sentait que l'assiette de sa fortune politique dépendait de la députation. Comment était-il parvenu, se dira-t-on ? par un moyen bien simple, Bono politique des Lupo, se charger des missions délicates que l'on ne peut donner ni à un homme qui se respecte, ni à un homme qui ne se respecte pas, mais qui se confie à des êtres sérieux et apocryphes tout ensemble, que l'on peut avouer ou désavouer à volonté. Son état était d'être toujours compromis, et il avançait autant par la défaite que par le succès. Il avait compris que sous la Restauration, tant de transactions continuelles entre les hommes, entre les choses, entre les faits accomplis et ceux qui se massaient à l'horizon, le pouvoir aurait besoin d'une femme de ménage. Une fois que dans une maison il s'introduit une vieille qui sait comment se fait et se défait le lit, où se balaient les ordures, où se jette et d'où se tire le linge sale, où se sert l'argenterie, comment s'apaise un créancier, quels gens doivent être reçus ou mis à la porte, cette créature eut-elle des vices, fut-elle sale, bancroche ou édentée, mit-elle à la loterie et prit-elle 30 sous par jour pour se faire une mise, les maîtres l'aiment par habitude. Tiennent devant elle conseil dans les circonstances les plus critiques. Elle est là, rappelle les ressources et flaire les mystères, apporte à propos le pot de rouge et le châle, se laisse gronder, rouler par les escaliers, et le lendemain, au réveil, présente gaiement un excellent consommé. Quelque grand que soit un homme, il a besoin d'une femme de ménage avec laquelle il puisse être faible, indécis, disputailleur avec son propre destin, s'interroger, se répondre et s'enhardir au combat. N'est-ce pas comme le bois mou des sauvages qui, frotté contre du bois dur, donne le feu? Beaucoup de génies s'allument ainsi. Napoléon faisait ménage avec Berthier et Richelieu avec le père Joseph. Des Lupo faisaient ménage avec tout le monde. Il restait l'ami des ministres déchus en se constituant leur intermédiaire auprès de ceux qui arrivaient. Il embaumait ainsi la dernière flatterie et parfumait le premier compliment. Il entendait d'ailleurs admirablement les petites choses auxquelles un homme d'État n'a pas le loisir de songer. Il comprenait une nécessité, il obéissait bien. Il relevait sa bassesse en plaisantant le premier afin d'en relever tout le prix et choisissait toujours dans les services à rendre celui que l'on n'oublierait pas. Ainsi, quand il fallut franchir le fossé qui séparait l'Empire de la Restauration, quand chacun cherchait une planche pour le passer, au moment où les roquets de l'Empire se ruaient dans un dévouement de parole, Des Lupo passait la frontière après avoir emprunté de fortes sommes à des usuriers. Jouant le tout pour le tout, il rachetait en Allemagne les créances les plus criardes sur le roi Louis XVIII et liquidait par ce moyen, lui le premier, près de 3 millions à 20%, car il eut le bonheur d'opérer à cheval sur 1814 et 1815. Les bénéfices furent dévorés par les sieurs Gosbeck, Verbrust et Gigonnet, croupiers de l'entreprise, des Lupo les leur avaient promis. Il ne jouait pas une mise, il jouait toute la banque, en sachant bien que Louis XVIII n'était pas homme à oublier cette lessive. Des Lupo fut nommé maître des requêtes, chevalier de Saint-Louis et officier de la Légion d'honneur. Une fois grimpé, l'homme habile chercha les moyens de se maintenir sur son échelon, car dans la place forte où il s'était introduit, les généraux ne conservent pas longtemps les bouches inutiles. Aussi, à son métier de ménagère et d'entremetteur, avait-il joint la consultation gratuite dans les maladies secrètes du pouvoir. Après avoir reconnu chez les prétendues supériorités de la Restauration une profonde infériorité relativement aux événements qui les dominaient, il avait imposé leur médiocrité politique en leur apportant, leur vendant au milieu d'une crise, ce mot d'ordre que les gens de talent écoutent dans l'avenir. Ne croyez point que ceci vint de lui-même, autrement, Des Lupo eût été un homme de génie, et ce n'était qu'un homme d'esprit. Ce Bertrand allait partout, recueillait les avis, sondait les consciences, et saisissait les sons qu'elle rendait. Il récoltait la science en véritable et infatigable abeille politique. Ce dictionnaire de Bell vivant ne faisait pas comme le fameux dictionnaire, il ne rapportait pas toutes les opinions sans conclure. Il avait le talent de la mouche et tombait droit sur la chair la plus exquise au milieu de la cuisine. Aussi passait-il pour un homme d'État indispensable, et cette croyance avait pris de si profondes racines dans les esprits que les ambitieux arrivés jugeaient nécessaire de bien le compromettre afin de l'empêcher de monter plus haut. Il le dédommageait par un crédit secret de son peu d'importance publique. Néanmoins, en se sentant appuyé sur tout le monde, ce pêcheur d'idées avait exigé des arts perpétuels. Il était rétribué par l'état-major dans la garde nationale, où il avait une sinécure payée par la ville de Paris, il était commissaire du gouvernement près d'une société anonyme, il avait une inspection dans la maison du roi. Ces deux places inscrites au budget étaient celles de secrétaire général et de maître des requêtes. Pour le moment, il voulait être commandeur de la Légion d'honneur, gentilhomme de la Chambre, comte et député. Pour être député, il fallait payer 1 000 francs d'impôts. La misérable bicoque des Loupeaux valait à peine 500 francs de rente. Ou prendre l'argent pour y bâtir un château, pour l'entourer de plusieurs domaines respectables, et venir y jeter de la poudre aux yeux de tout un arrondissement. Quoique dînant tous les jours en ville, quoique logé depuis 9 ans aux frais de l'État, quoique voituré par le ministère, des Loupeaux ne possédaient guère que 30 000 francs de dettes franches et liquides sur lesquelles personne n'élevait de contestation. Un mariage pouvait le mettre à flot en écopant sa barre pleine des eaux de la dette, mais le bon mariage dépendait de son avancement et son avancement voulait la députation. En cherchant les moyens de briser ce cercle vicieux, il ne voyait qu'un immense service à rendre ou quelques bonnes affaires à combiner. Mais hélas, les conspirations étaient usées et les Bourbons avaient en apparence vaincu les partis. Enfin, malheureusement, depuis quelques années, le gouvernement était si bien mis à jour par les sottes discussions de la gauche qui s'étudiaient à rendre tout gouvernement impossible en France qu'on ne pouvait plus y faire d'affaires. Les dernières s'étaient accomplies en Espagne et combien n'avait-on pas crié ? Puis des Loupeaux avaient multiplié les difficultés en croyant à l'amitié de son ministre, auquel il eut l'imprudence d'exprimer le désir d'être assis sur les bancs ministériels. Les ministres devinèrent d'où venait ce désir, des Loupeaux voulaient consolider une position précaire et ne plus être dans leur dépendance. Le lévrier se révoltait contre le chasseur, les ministres lui donnèrent quelques coups de fouet et le caressèrent tour à tour. Ils lui suscitèrent des rivaux, mais des Loupeaux se conduisit avec eux comme une habile courtisane avec des nouvelles venues. Il leur tendit des pièges, ils y tombèrent, il en fit promptement justice. Plus il se sentit menacé, plus il désira conquérir un poste inamovible. Mais il fallait jouer serré. En un instant, il pouvait tout perdre. Un coup de plume abattrait ses épaulettes de colonel civil, son inspection, sa sinécure à la société anonyme, ses deux places et leurs avantages, en tout 6 traitements conservés sous le feu de la loi sur le cumul. Souvent, il menaçait son ministre comme une maîtresse menace son amant. Il se disait sur le point d'épouser une riche veuve. Le ministre cajolait alors le cher des Loupeaux. Dans un de ses raccommodements, il reçut la promesse formelle d'une place à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de la première vacance. C'était, disait-il, le pain d'un cheval. Dans son admirable position, Clément Chardin des Loupeaux était comme un arbre planté dans un terrain favorable. Il pouvait satisfaire ses vices, ses fantaisies, ses vertus et ses défauts. Voici les fatigues de sa vie. Entre 5 ou 6 invitations journalières, il avait à choisir la maison où se trouvait le meilleur dîner. Il allait faire rire le matin le ministre et sa femme au petit lever, caresser les enfants et jouer avec eux. Puis il travaillait 1 heure ou 2, c'est-à-dire il s'étendait dans un bon fauteuil pour lire les journaux, dicter le sens d'une lettre, recevoir quand le ministre n'y était pas, expliquer en gros la besogne, attraper ou distribuer quelques gouttes d'eau bénite de cour, parcourir des pétitions d'un coup de lorgnon, ou les apostiller par une signature qui signifiait « Je m'en moque, faites comme vous voudrez ». Chacun savait que quand des Loupeaux s'intéressaient à quelqu'un ou à quelque chose, il s'en mêlait personnellement. Il permettait aux employés supérieurs quelques causeries intimes sur les affaires délicates et il écoutait leurs cancans. De temps en temps, il allait au château prendre le mot d'ordre. Enfin, il attendait le ministre au retour de la chambre quand il y avait session pour savoir s'il fallait inventer et diriger quelques manœuvres. Le sybarite ministériel s'habillait, dînait et visitait 12 ou 15 salons de 8 heures à 3 heures du matin. À l'opéra, il causait avec les journalistes car il était avec eux du dernier bien. Il y avait entre eux un continuel échange de petits services, il leur en donnait ses fausses nouvelles et gobait les leurs. Il les empêchait d'attaquer tel ou tel ministre sur telle ou telle chose qui ferait, disait-il, une vraie peine à leur femme ou à leur maîtresse. Dites que le projet de loi ne vaut rien et démontrez-le si vous pouvez, mais ne dites pas que Mariette a mal dansé. Calomniez notre affection pour nos proches en jupons, mais ne révélez pas nos farces de jeune homme. Diantre, nous avons tous fait nos vaudevilles et nous ne savons pas ce que nous pouvons devenir par le temps qui court. Vous serez peut-être ministre, vous qui salez aujourd'hui les tartines du constitutionnel. En revanche, dans l'occasion, il servait les rédacteurs, il levait tout obstacle à la représentation d'une pièce, il lâchait à propos des gratifications ou quelques bons dîners, il promettait de faciliter la conclusion d'une affaire. D'ailleurs, il aimait la littérature et protégeait les arts. Il avait des autographes, de magnifiques albums gratis, des esquisses, des tableaux. Il faisait beaucoup de bien aux artistes en ne leur nuisant pas, en les soutenant dans certaines occasions où leur amour-propre voulait une satisfaction peu coûteuse. Aussi était-il aimé par tout ce monde de coulisses, de journalistes et d'artistes. D'abord, tous avaient les mêmes vices et la même paresse, puis ils se moquaient si bien de tout, entre deux vins ou entre deux danseuses, le moyen de ne pas être amis. Si Des Lupeaux n'eût pas été secrétaire général, il aurait été journaliste. Aussi, dans la lutte des 15 années où la batte de l'épigramme ouvrit la brèche par où passa l'insurrection, Des Lupeaux ne reçut-il jamais le moindre coup. En voyant cet homme jouant à la boule dans le jardin du ministère avec les enfants de Monseigneur, le fretin des employés se creusait la cervelle pour deviner le secret de son influence et la nature de son travail, tandis que les talons rouges de tous les ministères le regardaient comme le plus dangereux Méphistophélès, l'adoraient et lui rendaient avec usure les flatteries qu'il débitait dans la sphère supérieure. Indéchiffrable comme une énigme hiéroglyphique pour les petits, l'utilité du secrétaire général était claire comme une règle de trois pour les intéressés. Chargé de tirer les conseils, les idées, de faire les rapports verbaux, ce petit prince de Wagram de ce Napoléon ministériel connaissait tous les secrets de la politique parlementaire, raccrocher les tièdes, porter, rapporter et enterrer les propositions, disait les non ou les oui que le ministre n'osait prononcer. Fait à recevoir les premiers feux et les premiers coups du désespoir ou de la colère, il se lamentait ou riait avec le ministre. Anneau mystérieux par lequel bien des intérêts se rattachaient au château, et discret comme un confesseur, tantôt il savait tout et tantôt ne savait rien, puis il disait du ministre ce que le ministre ne pouvait pas dire de soi-même. Enfin, avec cette éphestion politique, le ministre osait être lui-même, ôter sa perruque et son râtelier, poser ses scrupules et se mettre en pantoufles, déboutonner ses roueries et déchausser sa conscience. Tout d'ailleurs n'était pas rose pour Des Lupeaux. Il flattait et conseillait son ministre, obligé de flatter pour conseiller, de conseiller en flattant, et de déguiser la flatterie sous le conseil. Aussi, presque tous les hommes politiques qui firent ce métier eurent-ils une figure assez jaune. Leur constante habitude de toujours faire un mouvement de tête affirmatif pour approuver ce qui se dit, ou pour s'en donner l'air, communiqua quelque chose d'étrange à leur tête. Ils approuvaient indifféremment tout ce qui se disait devant eux, et leur langage fut plein de « mais », de « cependant », de « néanmoins », de « moi je ferai », »,« moi à votre place », ils disaient souvent « à votre place », toute phrase qui prépare la contradiction.
Au physique, Clément Des Lupeaux était le reste d'un joli homme. Taille de 5 pieds 4 pouces, en bon point tolérable, le teint échauffé par la bonne chair, un air usé, une titus poudrée, de petites lunettes fines, au moins blond, couleur indiquée par une main potelée comme celle d'une vieille femme blonde, un peu trop carré, les ongles courts, une main de satrape. Le pied ne manquait pas de distinction. Passé 5 heures, Des Lupeaux était toujours en bas de soie à jour, en souliers, pantalon noir, gilet de cachemire, mouchoir de Bastide sans parfum, chaîne d'or, habit bleu de roi à boutons ciselés et sa brochette d'ordre. Le matin, des bottes craquants et un pantalon gris. Sa tenue ressemblait beaucoup plus à celle d'un avoué madré qu'à la contenance d'un ministre. Son œil miroité par l'usage des lunettes le rendait plus laid qu'il ne l'était réellement quand, par malheur, il les ôtait. Pour les juges habiles, pour les gens droits, que le vrai seul met à l'aise, Des Lupeaux était insupportable. Ses façons gracieuses frisaient le mensonge, ses protestations aimables, ses vieilles gentillesses toujours neuves pour les imbéciles, montraient trop la corde. Tout homme perspicace voyait en lui une planche pourrie sur laquelle il fallait bien se garder de poser le pied.